Il est 6h.
Lumière de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, nous en avons fini avec notre voyage au pays des vertus et nous allons parler dans les séances qui suivent du corps qui me semble être l'accomplissement de la vie morale. Après cette introduction au corps comme accomplissement de la vie morale, j'aurai le plaisir de recevoir une quatrième fois ce mois-ci, le père Jean Gate, et puis, entre-temps, nous pourrons nous laisser inspirer par les chants divins de la divine liturgie. Il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir à propos de la morale, c'est ce que dit Pascal quand il parle de la relation qu'il peut y avoir entre la morale et la sensation. J'ai eu envie d'approfondir cette idée et de la relier au corps. Ce qui m'a donné envie de la relier au corps, c'est cette parole du Christ dans l'évangile de Matthieu quand il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Sentir, avoir des oreilles, mais aussi avoir des yeux, avoir du nez, avoir du goût, avoir du toucher, de la sensibilité. Tout ça me semble aller ensemble et nous permettre de comprendre ici pourquoi il va être important de parler du corps et de parler du cosmos. La caractéristique de l'évangile, c'est de nous montrer que Dieu n'est pas au-delà, Dieu est ici. Et il n'y a pas plus transcendant que le fait d'être incarné en vivant ici et maintenant. Comment est-ce que Dieu peut vivre ici et maintenant? Il peut vivre ici et maintenant en étant ce qui fait vivre ce qui vit et en étant en nous cette présence vivante faisant vivre ce que nous sommes. Ce qui fait que nous comprenons pourquoi il est dit que c'est en rentrant en nous-mêmes que nous découvrons Dieu. Oui, en nous, il y a l'énergie céleste, le pouvoir d'action et de sa grâce à l'intérieur de nous-mêmes qui peut nous faire vivre. Et on peut le découvrir quand nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes, nous le sentons vivre en nous-mêmes. Ce qui fait que on comprend ici les raisons pour lesquelles le Christ renouvelle et bouleverse complètement l'histoire en montrant combien Dieu est vivant, combien il est présent, combien il est réel, combien il est le réellement réel à l'intérieur de nous-mêmes, nous permettant de devenir ce réellement réel, pour peu que l'on aille vers lui. Dans notre expérience, cela se traduit par le sens cosmique dont je voudrais parler aujourd'hui. Et puis, dans les fois qui viennent, les fois qui vont venir, je vais parler du corps et de l'énergie. Le sens cosmique, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on peut appeler le sentiment de la nature, le sentiment de faire partie d'un tout. Mais ce n'est pas simplement le sentiment de la nature et le sentiment de faire partie d'un tout. C'est aussi le sentiment de faire partie de l'humanité. Et c'est le sentiment aussi de faire partie de ce tout de plénitude qui rassemble la nature, l'humanité et Dieu à l'intérieur d'un souffle proprement génial. Le sens cosmique renvoie à la première religion de l'humanité et aux religions et aux sagesses qui sont des sagesses non occidentales, encore vivantes dans notre monde. Nous n'avons plus le sens cosmique, sauf quand nous allons nous ressourcer à la mer, à la montagne ou au soleil. Les anciens, Et plus avant les anciens, les hommes préhistoriques avaient un sens extraordinaire de la nature et du tout. Et ils faisaient l'expérience de l'énergie qu'il y a en eux, qu'il y a dans le tout, de la nature, et dans la relation qu'il peut y avoir entre l'énergie qui est en eux, l'énergie qui est autour d'eux, l'énergie qui est autour d'eux et l'énergie qui est en eux. Par éthergie, j'entends le pouvoir agissant. Nous sommes dans un monde vivant, et ce monde vivant est vivant parce qu'il est terriblement agissant. Il agit en nous, il agit autour de nous. Et le sens cosmique, c'est ce qui permet d'avoir le sens de l'harmonie qu'il peut y avoir entre l'intérieur et l'extérieur, l'extérieur et l'intérieur. Ô Dieu Pan, fais que je puisse toujours avoir le sens de l'harmonie qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur, demande Socrate à la fin du Phèdre. Il a raison. Oh, combien raison! Quoi de plus délectable que de sentir l'harmonie avec le monde qui existe et de se sentir existant charnellement, physiquement, dans un monde qui existe charnellement, physiquement. Grandeur ici du monde païen, c'est-à-dire du monde paysan, du monde de la terre. Grandeur également de ce qui permet de sentir l'humanité comme un tout. Et ici, quand je parle de l'humanité comme un tout, je ne peux m'empêcher de penser à Hugo et à ses formidables poèmes dans lesquels, à travers, par exemple, les travailleurs de la mer, il voit défiler toute l'histoire de l'humanité depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Le sens cosmique, ce n'est pas simplement le sens de la nature, c'est le sens des mondes qu'il peut y avoir à l'intérieur du monde et la richesse de tous ces mondes. Les travailleurs de la mer sont un monde, mais il y en a d'autres. Balzac a su merveilleusement dessiner, portraiturer les différentes activités de son temps. Et à chaque fois, on s'aperçoit que tous les mondes que l'on explore sont des cosmos. Quand il nous est arrivé de rentrer dans l'atelier de certains artisans, nous avons eu le sentiment de vivre un monde. L'autre jour, j'étais chez un relieur et je regardais cet homme en train de relier les livres et je voyais ce monde des livres. Ou bien encore, vous allez chez un fleuriste et vous découvrez le paradis des fleurs qui sont déposées devant vos yeux. Et derrière tout ça, nous avons un cosmos. Il est merveilleux d'avoir un sens cosmique à travers la diversité humaine. Mais il est encore plus merveilleux d'avoir un sens cosmique au sens céleste et divin du terme. Le cosmos signifiait pour les Grecs anciens la parure des dieux, la manière dont les dieux se présentent à travers le sensible de la nature. Et nous faisons une expérience cosmique lorsque nous faisons une expérience de la beauté. Beauté de la nature, beauté des hommes, beauté de l'existence, beauté de l'harmonie qu'il peut y avoir entre nous et l'existence, l'existence et nous, à travers l'être que l'on sent cheminer, couler à travers l'existence, dans un rapport d'existence à existence. Et là, nous pouvons faire la plus haute expérience de sagesse qui soit, qui est celle du regard capable de voir l'un à travers le multiple et le multiple à travers l'un. C'est exactement ce qui se passe dans la Pentecôte, dont les philosophes rêvaient, mais finalement que la Pentecôte réalise. Les philosophes anciens cherchaient l'unité de toute chose dans la diversité et la diversité de toute chose dans l'unité. Ils sentaient bien qu'il y a un point où l'unité et la diversité se rassemblent, un point de coïncidence qui est un point de coïncidence fulgurant. Et c'est vrai que ce point existe. Ce point existe comment ? Il existe quand l'homme rentre en lui-même et fait vivre l'unique qui est l'intérieur de lui-même et qui renvoie à l'unique de Dieu. Là, nous sommes dans un sens cosmique de la plénitude divino-humaine où l'unique qui est en Dieu se reflète dans l'unique qui est en l'homme et l'unique qui est en l'homme se reflète dans l'unique qui est en Dieu. Et là, c'est exactement ce qui se passe dans la Pentecôte. Le contraire d'une unité qui détruit tout, comme dans la tour de Babel, pour avoir au contraire une unité qui révèle tout. Et quelle est cette unité ? Cette unité, c'est ce qui se passe quand on écoute Dieu de l'intérieur et quand on entend Dieu de l'intérieur, bien que tout le monde ne parle pas la même langue au niveau extérieur, comme tout le monde parle la langue divine et en étant parlé par cette langue, bien que tout le monde ne parle pas de la même langue, tout le monde se comprend parce que tout le monde vit de l'intérieur la langue divine. Et là, nous faisons l'expérience du cosmos, c'est-à-dire d'une harmonie infinie, stupéfiante, bouleversante, renversante qui peut exister et se révéler à nous. Mystère, profondeur extraordinaire de cette haute connaissance qu'est la connaissance de la foi et de l'inspiration céleste. La semaine dernière, nous avons écouté les moniales du monastère de Stavropoléos qui se trouve au centre de Bucarest, en Roumanie. Chers amis, depuis quelques semaines déjà, nous avons le plaisir d'accueillir le Père Jean Guaite qui s'est présenté, qui nous a parlé de la foi, de la divino-humanité. Et aujourd'hui, cher Père, vous allez nous parler de quelque chose qui vous semble particulièrement important, le filioque, et derrière lui, la théologie du Saint-Esprit.
Oui, bonjour Bertrand, bonjour chers auditeurs. Oserais-je inverser, j'allais dire parler du Saint-Esprit, et plus particulièrement donc de la question du filioque.
Voilà.
Car en effet, après avoir parlé de la nécessaire, enfin, de la foi en Jésus-Christ comme Dieu et homme, c'est ça qui est le fondement de la foi chrétienne, pour y arriver, car il y a une difficulté, nous l'avons souligné, mais pour y arriver, nous avons besoin de quelqu'un d'autre, j'ose le dire, n'est-ce pas ? C'est justement du Saint-Esprit. Car Paul aux Corinthiens dit bien que nul ne dit Jésus et le Seigneur, c'est-à-dire Christ, sous-entendu Dieu et homme, si ce n'est par le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Là, peut-être qu'il y a une nuance assez importante entre le développement des spiritualités occidentales et orientales, sans vouloir polémiquer. En effet, je voudrais revenir ici sur l'étymologie, sur le sens du mot « esprit ». Et là aussi, c'est encore ma biculture et mon bilinguisme qui m'ont vraiment conduit à ça. Je commencerai par ce que pense qu'entend un Russe, un Bulgare, un Serbe qui entre dans l'Église pour la première fois. Il n'a reçu aucun enseignement. Il entend simplement le prêtre, à la fin, dire « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Souffle ». c'est ce qu'entend un russe dans son langage courant d'aujourd'hui. Et donc, à chaque fois, je reviens toujours là-dessus, imaginez, cher, quand je vais faire des interventions en milieu œcuménique, imaginez que vous entriez dans l'église, que vous entendiez le curé dire « Allez en paix, à la fin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Souffle ». Est-ce qu'on prend la mesure de la différence que cela représente culturellement, psychologiquement, à travers les générations, entre, entre le Saint-Esprit, qui est devenu, disons-le, le siège de la logique, le siège de la raison, et le Saint-Souffle, qui est le siège du Saint-Souffle, c'est la poitrine, n'est-ce pas ? C'est le cœur, ce sont les poumons. Le grec a donné, pneuma, a donné l'organe, le poumon, pneumatique, n'est-ce pas ? La fonction, pneumologue, le médecin. Et par contre, le mot esprit, le mot spiritus latin, a bien donné esprit, il a donné le souffle, respiration, inspiration, expiration. Et lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il inspire, il gonfle les poumons, mais on peut dire de lui, ah, comme il était bien inspiré aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a bien parlé. Même chose pour expirer d'ailleurs. Expirer, c'est vider ses poumons et c'est aussi mourir. Le Christ sur la croix, en français, entre tes mains je remets mon esprit, dit-il, eh bien c'est entre tes mains je remets mon souffle. Et alors là, évidemment, ça nous renvoie à cette théologie du Saint-Esprit fondamentale et capitale, c'est le Saint-Souffle. Et que le Saint-Souffle est une personne à égalité, c'est là que la collection des philosophes, une personne à égalité avec le Fils, pour reprendre la fameuse formule ici, n'est-ce pas, de Saint-Athanas, de Saint-Irénée de Lyon, pardon, les deux mains du Père. Je rappelle que dans le Credo, le symbole de Nicée, nous affirmons « Je crois en un seul Dieu, je développe, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, et en un seul et en l'Esprit-Saint, Seigneur. » Il y a d'abord le deux fois « et les deux conjonctions sont importantes parce qu'elles mettent à égalité le Fils et l'Esprit, et d'autre part, il y a une seigneurie de l'Esprit, comme il y a une seigneurie du Fils. Généralement, quand on dit « Seigneur, Seigneur », on pense au Fils, mais l'Esprit-Saint est aussi, le Saint-Souffle est aussi Seigneur. Et donc, ce qu'il faut bien intégrer, c'est cette égalité du Père et du Fils et de l'Esprit, du Saint-Souffle, qui se rend, là je reprends la théologie telle qu'elle a été développée, dont nous sommes tous hérités dans l'orthodoxie, les deux mains du Père, et donc qui se rendent mutuellement service. Le Fils vient dans le monde par le Saint-Souffle, puisque c'est lui qui va permettre à Marie, n'est-ce pas, de porter en elle le Fils dans son sein, et qui va donc accomplir son dessein de réconciliation et de pardon, et après avoir glorifié le Père, il va remonter à la droite du Père, et dire à lui-même, il est bon pour vous que je remonte auprès du Père, car alors je vous enverrai un autre paraclet, consolateur, qui vous enseignera toutes choses, et cela se passera le jour de la Pentecôte. Il fera déjà avant. Il fera le soir de la résurrection et le huitième jour, nous savons, lorsqu'il se retrouve au milieu de ses disciples, leur disant, soufflant sur eux, paix à vous, dit-il, et soufflant sur eux, recevez le Saint-Esprit, ce qu'en français on appelle la petite Pentecôte. À ma connaissance, la formule n'existe pas dans les langues orthodoxes, mais ça fait rien. C'est vrai que déjà ce jour-là, il dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit, ce qui va leur permettre, petit à petit, d'accepter tout ce qui s'est passé, parce qu'au moment de la croix, ils sont complètement dispersés, ils sont complètement perdus, et au moment où il apparaît là, le soir, est-ce qu'ils y croient tout de suite ? Il va falloir faire un effort, mais surtout, il va rendre l'esprit, il va leur donner l'esprit qui va leur permettre de connaître et de venir finalement au Fils et au mystère du Dieu homme. Et c'est là pour cela que ça me paraît très important. Alors, la question du filioque, oui, c'est la question délicate, parce que c'est ce rajout qui, n'est-ce pas, tardif, enfin, on n'est pas si tardif que ça, d'ailleurs, puisqu'il vient pratiquement d'Augustin au départ, mais il sera dogmatisé au 12e ou même au 13e siècle, en réalité, à Lyon. N'est-ce pas que l'Esprit procède du Père et du Fils, c'est un déséquilibre qui, justement, ne fait plus de l'Esprit une personne à égalité avec le Fils. Or, c'est ça qui est important. Et que je dois dire que de ma propre expérience, j'ose l'avouer, de ma propre expérience, je sens bien à quel point on vient au Fils par le Saint-Esprit, par le Saint-Souffle. Et je reprends notre prière, Roi Céleste Consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, qui remplis tout, trésor de bien dans notre vie, viens, demeure en nous. Viens en nous, viens au niveau de notre âme, viens au niveau de notre cœur. Et c'est par là que on peut accéder au Fils, et par le Fils, on accède au Père qui a vu le Père. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons, comme dira saint Paul, et c'est ça l'objectif, c'est ça le point d'arrivée. Je ne veux pas discuter la spiritualité occidentale qui tourne autour de la formule de l'imitation de Jésus-Christ. Imitation de Jésus-Christ, certes, nous sommes appelés à une imitation, mais je préfère la formule de Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ça, c'est peut-être autre chose, n'est-ce pas ? On est tout simplement dans cette osmose, dans cette communion véritable, n'est-ce pas ? Dieu est devenu est en moi. Et c'est ça, et ce Dieu en moi passe par le Saint-Souffle, par le Saint-Esprit. D'où le témoignage de Séraphin de Sarov, le but de la vie chrétienne, n'est-ce pas, c'est l'acquisition ou la fructification du Saint-Souffle, du Saint-Esprit, parce que c'est par là, finalement, que tout se réalise. Et j'oserais évoquer ici, dans un esprit de compréhension mutuelle, et non pas du tout de rejet, le cardinal Congar, qui était l'un des meilleurs spécialistes de l'orthodoxie, et qui aura cette formule à ce propos de ce que dira, nous avons le même Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit, mort, résurrection, la croix, la résurrection, nous avons tout cela. Mais nous n'avons pas la même relation à Dieu, et nous n'avons pas la même relation, perception de la relation de Dieu à nous. C'est très important. Tout est une question de perception et de relation. Maintenant, nous voulons dire la même chose. Oui, Père et Fils et Saint-Esprit, oui, mort et ressuscité, mais quelle relation intime nous avons. Et c'est là qu'il y a peut-être une petite nuance entre la spiritualité occidentale et orientale telles qu'elles se sont développées, mais je sens que nous sommes déjà sur des voies un petit peu à la faveur de toutes nos rencontres œcuméniques et nous connaissons de plus en plus. Il y a 50 ans, on n'en était pas là. Le Vatican II...
Vous trouvez qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans les...
Oui.
Vous comprenez bien.
Oui, sincèrement, il y a pour ceux qui participent à cela, pour ceux qui participent, il y a incontestablement un rapprochement. Et je dois dire que, à ma plus grande satisfaction, je ne peux pas dire le contraire, le texte qui a été préparé pour la semaine de l'unité par la communauté de Beauce catholique, mais très ouvert sur l'œcuménisme, et qui a préparé le texte qu'il fallait lire ensemble pour célébrer les Nicées, c'est-à-dire 1700 ans de Nicée, eh bien, ce texte, c'est le texte du Créton, dans lequel il y a d'abord deux choses. La première, c'est qu'au lieu de dire je crois, c'est nous croyons, car ensemble, conciliairement, c'est un nous. Le jeu est un baptismal. Conciliairement, c'est un nous croyons, si nous sommes tous baptisés. Et dans ce texte qui a été diffusé, qui a été repris, eh bien, c'est le texte de Nicée, c'est-à-dire sans le filioque. Et nous l'avons dit tous ensemble à Marseille, en présence du cardinal catholique, sans le filioque.
Mais n'oublions pas que jusqu'au XIe siècle, il y avait l'Église indivise.
Il y avait l'Église indivise,
c'était l'Orient et l'Occident, et il n'y avait pas de voilà. Séparation.
Voilà. Mais bon,
beaucoup plus tard.
Tout est permis.
Mais tout n'est pas utile.
Mais tout n'est pas utile, mais là c'est un autre sujet. Mais là, au contraire, ce qui est très important, ce qui est utile, c'est que nous puissions confesser totalement, exactement la même foi dans les mêmes termes.
Cher Père, ce fut un grand plaisir et un grand honneur de vous avoir. Nous vous remercions énormément pour votre témoignage, votre engagement et également la vitalité de votre parole qui m'a enchanté et je suis sûr qui a enchanté tous nos auditeurs.
Merci beaucoup,
merci
Bertrand,
encore.
Merci de m'avoir invité.
Et pour terminer, à nouveau, la maîtrise du monastère de Stavropoléos, maîtrise masculine, qui, nous le verrons, exécute d'une manière aussi admirable le chant liturgique que leur sœur moniale dans ce même monastère.
Maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du